Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et le retour tant attendu, il est réclamé par la foule en délire chaque mercredi. Il est donc bien présent, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
J'espère que je n'en fais pas trop. C'est un voyage dans l'Europe, de la poésie que nous allons achever ensemble après l'Antiquité, après l'Angleterre et l'Allemagne romantique du 19e siècle. Dans quelle contrée et à quelle époque vous allez nous emmener aujourd'hui ?
Nous serons beaucoup en France et les poètes que nous visiterons ont vécu pour la plupart au siècle passé. C'est devenu un peu une habitude pour moi dans ces chroniques culturelles de dire que le XXe siècle est le siècle de la modernité, même si le débat entre anciens et modernes avait déjà agité le XVIIe siècle. Le XXe siècle est aussi celui d'un foisonnement créatif que l'on n'avait pas observé dans ceux qui l'ont précédé.
Donc XXe siècle moderne.
Vous savez, Sébastien, dans l'histoire et surtout dans l'histoire culturelle, les siècles sont rarement aussi étanches que sur les calendriers. En fait, la modernité en poésie, comme cela avait été aussi le cas pour la peinture, est apparue plutôt dans les dernières décennies du 19e siècle. En France, l'idée de modernité était même présente chez Baudelaire dans ses Fleurs du Mal et ses poèmes en prose. Le poème en prose qui est une nouveauté dans le monde de la poésie. C'est toutefois Arthur Rimbaud qui est considéré comme celui qui a engagé la poésie dans une voie résolument nouvelle.
Et justement, peut-être un mot sur ce poète dont on se souvient peut-être d'avoir appris ou étudié à l'école quelques-uns des poèmes.
Le dormeur du Val, par exemple.
Ça nous rappelle des petits souvenirs.
C'est un trou de verdure où chante une rivière. Rimbaud, un météore dans la poésie européenne. Son œuvre tient en un seul volume et elle a été composée intégralement par un adolescent de 16 ans, puis un jeune homme qui, à 20 ans, tournera définitivement la page, ne publiera plus rien et ira mener jusqu'à sa mort en 1891, à l'âge de 37 ans, une vie quelque peu marginale en Abyssinie, dans l'Éthiopie de l'époque. Rimbaud sera avec un autre jeune poète français moins connu que lui et qui l'avait précédé, Lautréamont, qui est l'auteur des très déroutants Chants de Maldoror, la référence majeure des poètes novateurs du XXe siècle. Les surréalistes, en effet, se reconnaîtront dans celui qui se nommait Le Voyant, car il donnait à la poésie le pouvoir d'accéder à une vérité cachée au fond de l'inconscient.
Alors on parle du surréalisme, ça c'est une histoire française ?
Européenne plutôt, jugez-en. Guillaume Apollinaire, le premier grand poète moderne, pas encore surréaliste, mais grand poète moderne du début du XXe siècle, était né sujet polonais de l'Empire russe. Et Tristan Tzara, le fondateur du mouvement Dada, était d'origine roumaine. Et ces dadaïstes sont les avant-gardistes du mouvement surréaliste. Ainsi, après son arrivée à Paris, Tzara se lie avec André Breton, le futur rédacteur du Manifeste du surréalisme. Le surréalisme qui gagnera toute l'Europe, c'est plus qu'une théorie littéraire, c'est un mouvement de pensée que l'on dirait aujourd'hui radical et qui remet tout en cause, l'organisation sociale, les valeurs morales, la notion même d'art. En poésie, cela se traduit par une libération du langage avec l'utilisation entre autres de l'écriture dite automatique. Je suis sûr que vous aimeriez que je vous en donne un exemple, Sébastien.
Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert.
C'est justement la chanson Dada de Tristan Tzara dont je vous lis un extrait. La chanson d'un dadaïste qui avait Dada au cœur, fatiguait trop son moteur qui avait Dada au cœur. L'ascenseur portait un roi, lourd, fragile, autonome, il coupa son grand bras droit, l'envoya au pape à Rome.
Sympathique programme. Ça me semble quand même un peu infantile tout ça.
Tout à fait. Même si des choses plus sérieuses seront écrites par Breton et surtout des poètes français qui prendront assez rapidement leur distance avec le surréalisme et dont certains se révéleront comme les plus grands poètes du XXe siècle. Paul Éluard, Robert Desnos, Louis Aragon. Et pour ceci, un tournant sera pris en ces temps troublés de menaces fascistes et de guerres, celui de l'engagement.
Donc des poètes engagés, si je comprends bien.
C'est le nom qu'on leur donne. On connaît le fameux poème d'Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Ce n'est pas une nouveauté dans la poésie européenne. Certains poèmes de Victor Hugo étaient déjà porteurs de messages politiques ou sociaux. En Angleterre, Byron, j'en ai parlé la semaine dernière, était un ardent défenseur des libertés. Avec la période de l'occupation, c'est une véritable poésie de résistance qui se développe. Nombre des anciens surréalistes seront même engagés dans les réseaux proches du Parti communiste et Robert Desnos ira mourir en déportation. Un poète victime de dictature, cela avait été le cas aussi quelques années plus tôt du poète espagnol Federico García Lorca, fusillé par les franquistes le 19 août 1936. Une poésie engagée qui, hors d'Europe, ira porter la parole des colonisés avec Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, les luttes des classes en Amérique latine avec Pablo Neruda ou contre la junte chilienne avec les chansons de Victor Jara ou Violeta Parra. Car c'est un des faits majeurs de cette période, l'engagement poétique s'est déporté vers la chanson. Le déserteur de Boris Vian, par exemple, la voix de Vysotsky, chanteur et poète contestataire russe que je faisais entendre dans une autre chronique. Peut-on parler aujourd'hui de chansons engagées quand on évoque le rap ? Personnellement, je ne serais pas tranché, Sébastien.
Je ne prendrai pas parti non plus, je laisse chacun décider pour lui. Mais une question cruciale peut-être quand même pour finir, est-ce qu'on lit encore de la poésie aujourd'hui ?
Bien peu, en France en tout cas. Je n'ai pas de chiffres pour d'autres pays, mais le constat est probablement le même. Le nombre des lecteurs réguliers de poésie est infime. L'école est encore, heureusement, un des derniers refuges des poètes, dont quelques-uns des très grands poètes vivants ou récemment décédés, comme Yves Bonnefoy, par exemple. Car il y a, en France et ailleurs au XXIe siècle, des grands poètes. On lit très peu de poèmes, donc, mais on en écrit encore et on en écoute peut-être un peu, mis en musique par les Brassens, Ferré, Ferra ou de plus jeunes. On peut dire que la chanson est devenue comme un succès d'année moderne de la poésie. Et je veux vous faire entendre un extrait du poème superbe de Jean Genet, « Condamné à mort », chanté en 2011 par Étienne Dao.
Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Voilà donc pour ce condamné à mort de Jean Genet à la sauce Étienne Dao.
Voilà pour ce tour d'horizon de la poésie européenne, une poésie qui a été plus que vivante dans les siècles passés et que notre époque semble délaisser. Personnellement, vous l'avez compris, Sébastien, je le regrette.
Et vous nous en avez fait partager, en tous les cas, avec bonheur, pendant 3 semaines. C'était la dernière partie de cette série. On va donc marquer une pause la semaine prochaine. Il n'y aura pas de chronique. J'espère que les fans de Jean-Pierre vont tenir le choc. Il revient dans 15 jours. Donc, tenez bon.
Et encore plus en forme.
Oh, bah oui. Et avec une thématique, on va se rapprocher des fêtes. Hein. Ça y est, on aborde le mois de décembre.
Le mot fête, à mon avis, quelque chose à voir avec ces chroniques-là.
Oui. Ah, et bah écoutez, on lève le voile sur le mystère. Dans 15 jours, en attendant, très bonne quinzaine, Jean-Pierre.
Bonne quinzaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.